Reportage avec Magda Janjechak.
Alors que la Coupe du Monde 2026 se déroule en Amérique du Nord pour la première fois de son histoire, la compétition a offert cette année un moment particulier aux communautés francophones. Parmi les nations encore engagées dans le tournoi, plusieurs sélections résonnent particulièrement auprès de la francophonie. La France, la Belgique, la Suisse et le Maroc. Le quart de finale opposant la France au Maroc a notamment rassemblé de nombreux supporters à Toronto. Car si chacun est venu encourager son équipe nationale, cette rencontre a aussi révélé un autre visage de la compétition, celui d'une communauté francophone qui dépasse les frontières. C'est notamment le cas d'Audrey, rencontrée lors de ce match.
Bonjour, je m'appelle Audrey, donc originaire de la Martinique, et je soutiens la France avant tout, mais j'ai un petit faible pour le Maroc.
Une double appartenance que l'on retrouve chez plusieurs supporters présents lors de cette rencontre. Maud, venue encourager la France, évoque elle aussi cette proximité particulière entre pays francophones.
Ça fait le good, il y a un truc bizarre d'un point de vue l'Europe, c'est les collègues de la France et nos voisins, donc un micro-fierté, mais ça n'empêche rien que tout est pour la France.
Car derrière la rivalité sportive, pour certains supporters, ce match représente aussi une rencontre entre deux cultures liées par une même langue. Clémentine, présente avant le début du match, compare cette opposition à une histoire de famille.
Je pense que c'est quelque chose d'assez beau. Je pense qu'il y a, je sais pas, un petit côté un peu fraternel entre la France et le Maroc. Et je pense que ça va justement rendre le match super intéressant. Bon, ça va être dur, hein, parce que les Marocains, ils sont pas mauvais. Hein. C'est pour ça qu'ils sont en quart comme nous. Mais je pense que ça va amener un petit quelque chose de sympa, comme si c'est deux frères qui se bataillaient entre eux, en fait.
Et si le match France-Maroc a été marqué par cette proximité entre supporters, les autres rencontres de la compétition sont-elles aussi regardées avec un intérêt particulier par les francophones de Toronto ?
Honnêtement, j'aurais préféré que la Belgique affronte la France, mais en même temps, si je veux être un peu chauvine, j'aimerais bien que peut-être la Suisse, puisqu'elle est a priori pas favorite. Mais bon, on ne sait jamais, on peut avoir de belles surprises.
Entre l'envie de voir son équipe gagner et celle de voir la francophonie briller, cette Coupe du Monde devient aussi un moment de rassemblement pour les communautés francophones de Toronto et un moyen d'échanger autour de leur culture.
Ouais, je pense que en fait, on est suffisamment supporters et à fond derrière l'équipe pour que tous les 4 ans, on soit derrière la France, derrière cette équipe. Et en fait, oui, peut-être ça rassemble de nouveaux visages, des plus jeunes personnes qui voient les t-shirts, qui voient la fierté. Donc oui, on rassemble toujours plus de monde every time, quoi. J'ai ramené des amis qui sont pas du tout fouteux. J'ai ramené des amis de mon bâtiment condo qui découvrent la France avec moi. Et c'est magnifique de rassembler tout le monde. Et c'est juste des moments incroyables. Le cri, on sort sans voix. C'est vraiment quelque chose qui flamme l'intérieur, quoi. Et le fait de venir dans des endroits comme ça où il n'y a que des Français ou des supporters de France et des francophones et des amis de francophones, etc., la extended family, ça fait vraiment chaud au cœur, c'est sympa, il y a plein d'énergie, positive vibe.
Pour Clémentine, ce phénomène n'est d'ailleurs pas nouveau. Lors de la précédente Coupe du Monde, elle avait déjà observé cette capacité du football à créer des liens durables entre francophones.
Quand il y a eu la Coupe du Monde en 2018, j'étais déjà à Toronto et j'ai vu tellement on est tous nos petits groupes de Français à Toronto se rassembler et devenir des super groupes de potes qui en fait sont restés potes, pas juste pendant la Coupe du Monde, mais beaucoup longtemps après ça, même ceux qui sont repartis en France. C'est vraiment une manière de nous unir, je pense que c'est la plus belle manière de s'unir. Et du coup, je pense que voilà, les dynamiques de groupes de potes et tout ça vont changer, vont s'agrandir, et je pense que c'est quelque chose de magnifique et d'extraordinaire.
Car si la Coupe du Monde reste avant tout une occasion de célébrer son équipe et ses couleurs, à Toronto, elle raconte aussi notre histoire, celle d'une communauté francophone au parcours, aux histoires et aux origines multiples qui se retrouvent au-delà des frontières.
En fait, je faisais la remarque, je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes déjà qui viennent au match, donc au niveau des gens, ça change un peu. Et la francophonie également, parce que je trouve que ça rassemble pas mal. Je pense que si la Belgique se fait éliminer, j'espère que les Belges viendront soutenir la France, etc. Et ça rassemble, le maillot rassemble. J'ai eu l'occasion de porter ce maillot à des matchs où la France ne jouait pas, puisque là je porte le maillot de la France en fait, pour ceux qui ne voient pas. Et j'ai été surprise par le nombre de personnes qui m'ont dit « je pense que vous avez toutes les chances de gagner cette année », en parlant de la France évidemment, pas moi. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa, donc je trouve que ça rassemble, et au-delà de la francophonie d'ailleurs.
Depuis le début du mois de juin, les équipes engagées dans la Coupe du Monde 2026 s'affrontent pour décrocher le titre mondial. Mais à Toronto, cette compétition raconte aussi notre histoire, celle d'une francophonie qui dépasse les frontières, où les rivalités sportives peuvent laisser place à un sentiment d'appartenance commun. Entre fierté nationale, rencontres et moments partagés, cette Coupe du Monde pourrait bien laisser une empreinte durable dans la communauté francophone de la ville. C'était un reportage de Magda Janjicak dans le cadre d'initiative Journalisme Local à Toronto.